Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie, chapitre 31 à 35. Chapitre 31, visite aux pyramides. La résolution ainsi prise, ils partirent le jour suivant. Ils chargèrent des tentes sur leurs chameaux, dans l'intention de s'arrêter aux pyramides tout le temps nécessaire à leur curiosité. Ils voyageaient sans se presser, se détourner quand il y avait quelque chose à voir, séjourner de temps en temps, converser avec les hommes du pays et remarquer à chaque instant le contraste des villes habitées avec les cités en ruine, de la nature sauvage avec la nature cultivée. Lorsqu'ils arrivèrent à la grande pyramide, l'immensité de la base et la hauteur du sommet les frappèrent d'étonnement. Imlac leur expliqua d'après quel principe la forme pyramidale avait été choisie pour un monument dont on voulait que la durée égalât celle du monde. Il leur montrait que cette diminution graduelle donne à l'édifice une consistance qui défie les attaques conjurées des éléments et qui résisterait presque à la violence d'un tremblement de terre, c'est-à-dire à la plus irrésistible de toutes les convulsions de la nature. Une secousse qui renverserait la pyramide menacerait le continent d'une destruction totale. Ils en mesurèrent les dimensions dans tous les sens et plantèrent leur tente au pied de l'édifice. Le jour suivant, on devait visiter l'intérieur et, après avoir pris des guides, selon l'usage, ils étaient parvenus à gravir jusqu'à la première entrée lorsque la favorite de la princesse, jetant les yeux sur cette profondeur, recula en tremblant. « Pekoua, dit la princesse, de quoi avez-vous peur ?»« D'une entrée si étroite, répondit-elle, et d'une si effrayante obscurité. Je n'oserais jamais pénétrer dans un lieu hanté, sans doute, par des âmes en peine. Les anciens maîtres de ces horribles voûtes vont se lever devant nous et peut-être nous y enfermer pour toujours. » Après avoir dit ces mots, elle jeta ses bras autour du cou de sa maîtresse. « Si vous ne redoutez que les apparitions, dit le prince, je m'offre pour garant de votre sûreté. Ne craignez rien des morts. L'homme, une fois descendu dans le tombeau, ne reparaît plus sur la terre. » L'irrévocable disparition des morts, dit Imlac, est un fait que je n'oserais soutenir contre le témoignage unanime et invariable de tous les siècles et de tous les pays. Il n'y a pas de peuple éclairé ou barbare qui n'ait ces récits d'apparition et qui n'y ajoute foi. Une croyance répandue partout où l'on trouve des hommes n'a pu devenir générale sans fondement. Des nations qui ne se sont jamais connues ne s'accorderaient pas sur des histoires auxquelles la réalité seule a pu donner cours. L'incrédulité de quelques plaisants a peu de force contre l'assentiment universel. Souvent d'ailleurs celui dont la bouche nie l'existence des esprits en avoue la réalité par ses terreurs. Cependant, je ne veux pas ajouter aux craintes de Pekoua. Il n'y a pas de raison pour que les spectres hantent la pyramide plutôt que notre lieu, et pour qu'ils aient le pouvoir ou la volonté de nuire à ceux dont le cœur est innocent et pur. En entrant dans la pyramide, nous ne violons pas leurs privilèges, nous ne pouvons rien leur prendre, comment pourrions-nous les offenser ? « Ma chère Pekoua, dit la princesse, j'irai devant vous et Imlac vous suivra. Rappelez-vous que vous êtes la compagne de la princesse d'Abyssinie. » « S'il plaît à la princesse que son esclave meure, reprit Pekoua, quel daigne ordonner un supplice moins horrible que d'être enseveli dans cet affreux séjour. Vous le savez, je ne puis désobéir. Parlez donc et je vous suis. Mais si j'entre dans ces lieux, ça n'est fait. Je ne reverrai jamais la lumière. » La princesse, voyant que ses prières ou ses reproches ne prévaudraient point sur sa frayeur, l'embrassa et lui permit de rester dans la tente jusqu'à leur retour. Pekoua, à demi satisfaite, supplier la princesse de renoncer elle-même au projet de visiter ces lieux épouvantables. « Si je ne puis vous donner de leçons de courage, dit Nekaya, je ne veux pas du moins en recevoir de faiblesse, ni retourner sans avoir contenté la curiosité qui m'amène. » Chapitre 32. Entrée dans les pyramides. Pekoua redescendit vers la tente et les voyageurs entrèrent dans la pyramide. Ils traversèrent des galeries, examinèrent les voûtes de marbre et virent le coffre dans lequel on suppose que fut déposé le corps du fondateur. Puis ils s'assirent dans l'une des plus vastes salles afin de se reposer un moment avant de revenir sur leurs pas. « Nous voilà satisfaits, dit Imlac. nous connaissons maintenant le plus grand ouvrage qui, après la muraille de la Chine, soit sorti de la main des hommes. Cette muraille, ajouta-t-il, avait une destination dont il est facile de se rendre compte. Elle mettait une nation riche et timide à l'abri de peuplades barbares qui, étrangères aux procédés des arts, trouvaient plus simple de pourvoir à leurs besoins par la rapine que par le travail et qui, de temps en temps, venaient fondre sur une contrée paisible et commerçante comme les vautours sur les oiseaux domestiques. Il fallait un rempart contre leur audace et la rapidité de leurs entreprises. Grâce à leur ignorance, la muraille a suffi. Quant aux pyramides, on ne trouve rien de plausible pour justifier les dépenses et les travaux de cet immense ouvrage. La petitesse des chambres prouve qu'elles ne servaient pas de retraite contre l'ennemi, et l'on peut garder des trésors avec bien moins de frais et autant de sécurité. Les pyramides ne s'expliquent guère que par cette inquiétude d'esprit qui nous dévore et à laquelle il faut sans cesse un aliment nouveau. Des désirs toujours satisfaits appellent sans cesse de nouveaux désirs. On bâtit d'abord pour ses besoins, puis après pour sa vanité. Enfin, on épuise tous les efforts de la puissance de l'homme pour n'avoir pas trop tôt de nouveaux désirs à former. Je vois dans cet immense édifice un témoignage du néant des jouissances humaines. Avec une autorité sans bornes, avec des trésors supérieurs à tous ses besoins, à tous ses caprices, un monarque a cherché dans la construction de cette pyramide un remède à la satiété du pouvoir et à l'épuisement des sens. Il a voulu amuser l'ennui de ses vieux jours par le spectacle d'une multitude d'hommes travaillant sans fin et d'une accumulation de pierres venant sans utilité se placer l'une sur l'autre. Qui que tu sois qui, mécontent d'un sort modeste, fait consister le bonheur dans la magnificence des rois et pense que la puissance et la richesse fournissent des plaisirs toujours nouveaux à des désirs toujours renaissants, regarde les pyramides et reconnaît ta folie. Chapitre 33. La princesse éprouve un malheur inattendu. Ils se levèrent et revinrent par l'ouverture souterraine qui leur avait donné accès. La princesse se disposait à faire à sa favorite un long récit des labyrinthes obscurs, des salles splendides et de toutes les choses curieuses qu'elle avait remarquées sur son passage. Mais lorsqu'ils eurent rejoint leur suite, ils trouvèrent tout le monde plongé dans un morne et triste silence. La contenance des hommes annonçait la honte et la crainte, et les femmes fondaient en pleurs dans les tentes. Sans se livrer à aucune conjecture, ils demandèrent sur le champ ce qui était arrivé. « Vous étiez à peine entré dans les pyramides, dit un des attendants, leur serviteur, qu'une troupe d'Arabes fondit sur nous. Leur nombre et la rapidité de leurs coursiers rendaient la résistance et la fuite également impossibles. Ils s'occupaient à fouiller nos tentes, à nous charger sur leurs chameaux et déjà nous chasser devant eux lorsque l'approche d'un corps de cavalerie turque les a mis en fuite. Mais ils ont saisi Pekoua et les deux suivantes et les ont amenés avec eux. Sur nos instances, les Turcs se sont mis à les poursuivre, mais je crains bien qu'ils ne puissent les atteindre. » La princesse fut atterrée de surprise et de douleur. Rasselas, dans la première chaleur de son ressentiment, ordonna à ses serviteurs de le suivre et se préparait à courir, le sabre à la main, après les ravisseurs. « Prince, dit Imlac, que pouvez-vous espérer de la force ou de votre vaillance? Les Arabes montent des chevaux exercés au combat, comme à la fuite. Nous n'avons que des bêtes de charge. En quittant notre poste, nous pouvons perdre la princesse, mais nous ne ressaisirons point Pekoua. » Peu après, les Turcs revinrent, sans avoir pu joindre l'ennemi. La princesse éclata de nouveau en lamentations, et Rasselas put à peine retenir ses reproches contre le peu de courage des Turcs. Imlac, au contraire, ne regardait pas la fuite des Arabes comme un malheur, car l'ennemi aurait tué ses captives plutôt que de les rendre. Chapitre 34. Ils retournent au Caire sans Pekoua. On ne pouvait rien gagner à attendre. Ils reprirent donc le chemin du Caire, regrettant leur curiosité, condamnant la négligence du gouvernement, s'accusant eux-mêmes d'imprudence pour n'avoir pas pris d'escorte, songeant à tout ce qui aurait pu prévenir la perte de Pekoua, mais ne sachant quel moyen prendre pour la retrouver, quoique bien résolu à faire quelques tentatives à cet égard. Nekaya se retira dans son appartement, où ses femmes cherchèrent à la consoler, en lui disant que chacun avait sa part de maux dans ce monde, et que Pekoua, ayant été longtemps heureuse, devait raisonnablement s'attendre à quelque changement de fortune, que sans doute, en quelque lieu qu'elle fût, le sort lui deviendrait favorable et qu'enfin leur maîtresse trouverait une autre amie pour la remplacer. Nekaya ne répondant point, elles continuèrent leurs consolations sur le même ton, peu affligées au fond de la perte de la favorite. Le jour suivant, le prince présenta au pacha un mémoire sur cet événement et demanda justice. Le pacha promit de punir les ravisseurs, mais ne prit aucune mesure pour les atteindre. Il n'avait pas, à la vérité, d'indications assez précises pour diriger ses poursuites. On reconnut bientôt qu'on n'obtiendrait rien de l'autorité. Les gouverneurs, habitués à voir plus de crimes qu'ils n'en pouvaient punir, plus de maux qu'ils n'en pouvaient réparer, se mettaient à leur aise en négligeant tout indistinctement, et aussitôt qu'un plaignant s'éloignait, ils oubliaient la requête. Imlac essaya d'obtenir quelques renseignements par des agents particuliers. Il en trouva beaucoup qui prétendaient connaître parfaitement les retraites des Arabes et même entretenir correspondance avec leurs chefs et qui se chargèrent sans hésiter de découvrir Pekoua. Les uns reçurent de l'argent pour leur voyage et ne reparurent point. D'autres furent libéralement payés pour des renseignements dont la fausseté fut reconnue au bout de quelques jours. Mais la princesse ne voulait rejeter aucune voix, même douteuse. Par ses recherches, elle tenait son espérance en haleine. Sitôt qu'un expédient manquait, un autre lui venait à l'esprit. Sitôt qu'un messager était de retour après une tentative inutile, on en expédiait un nouveau sur un point différent. 2 mois s'étaient passés et l'on n'avait pas de nouvelles. L'espoir qu'on cherchait à conserver diminuait de jour en jour, et lorsque la princesse vit que rien ne réussissait, elle tomba dans l'abattement du désespoir. À chaque instant, elle se reprochait la facilité avec laquelle elle avait permis à sa favorite de ne pas la suivre. « Sans ma faiblesse, disait-elle, qui a fait tort à mon autorité, Pekoua n'aurait pas osé parler de sa frayeur. Elle aurait craint sa maîtresse plus que les spectres. Un regard l'aurait intimidée, un ordre l'aurait forcée à l'obéissance. Pourquoi ma folle indulgence l'a-t-elle emportée? J'aurais dû parler et refuser d'entendre. » « Grande princesse, dit Imlac, ne vous faites pas un reproche de votre vertu et cessez de vous imputer un malheur dont la cause est accidentelle. En vous laissant toucher par la timidité de Pekoua, vous avez cédé à un mouvement généreux et bon. Lorsqu'on a fait son devoir, il faut remettre l'événement à celui dont les lois règlent nos actions et qui ne veut pas qu'on soit puni pour avoir obéi à ses ordres. Violer les principes en vue d'un bien moral ou matériel serait se soustraire à la direction de la sagesse suprême et attirer sur sa tête la responsabilité de cette déviation. L'homme ne connaît pas assez l'enchaînement des causes et des effets pour s'aventurer à faire le mal afin de produire le bien. Lorsqu'on marche au but par des moyens légitimes, on peut se consoler de ses mécomptes par l'espérance d'être récompensé plus tard. Lorsque, au contraire, on ne consulte que son intérêt et que pour arriver plus vite, on méconnaît la distinction du bien et du mal, on ne saurait pas même être heureux par le succès, car on n'échappe pas aux reproches de sa conscience, et si on échoue, rien ne tempère l'amertume du regret. Quel tourment affreux que d'avoir à souffrir à la fois du sentiment de ses fautes et des calamités qu'elles nous attirent. Considérez, princesse, quelle serait votre position si Pekoua avait demandé à vous suivre, et si, en la forçant de rester sous les tentes, vous eussiez été cause de son enlèvement. Quel serait aujourd'hui le trouble de votre âme si vous l'aviez contrainte d'entrer dans la pyramide et qu'elle eût succombé devant vous aux convulsions de la terreur. Dans ces 2 cas, dit Nekaya, je n'aurais pas supporté la vie. Le désespoir d'une telle cruauté m'aurait fait perdre la raison, où j'aurais trouvé une mort lente dans l'horreur de moi-même. Voilà, dit Imlac, la première récompense d'une action vertueuse. Quelles qu'en soient les conséquences, elle n'entraîne jamais de repentir. Chapitre 35. Langueur de la princesse après la disparition de Pekoua. Ces paroles ayant réconcilié Nekaya avec elle-même, elle sentit qu'il n'y a de mots insupportables que ceux où se mêlent les reproches de la conscience. La violence de son désespoir s'apaisa et fit place à une préoccupation silencieuse, à un calme sombre. Du matin au soir, elle se rappelait tout ce qu'avait fait ou dit sa chère Pekoua. Elle recueillait avec un soin religieux jusqu'aux bagatelles qui avaient pu intéresser un moment sa favorite et qui se rattachaient aux moindres incidents de leur commerce ou aux particularités les plus indifférentes de leurs entretiens. Les opinions exprimées par elle, qu'elle croyait avoir perdue pour toujours, se gravaient dans sa pensée comme autant de règles de conduite, et elle se demandait à chaque instant ce que Pekoua lui aurait dit ou conseillé dans telle ou telle circonstance. Entourée de femmes pour qui son rang était un mystère, Nekaya ne devait leur parler qu'avec précaution et réserve. Aussi perdit-elle insensiblement sa curiosité et son goût pour des connaissances qui ne pouvaient plus devenir pour elle des sujets d'entretien. Rasselas essaya d'abord de la consoler, puis de la distraire. Il fit venir des musiciens qu'elle paraissait écouter, mais qu'elle n'entendait pas. Il appela différents maîtres d'agrément, qui étaient obligés chaque fois de recommencer leurs leçons. Chez elle, plus de goût des plaisirs, plus de nobles ambitions. Son esprit, distrait pour un moment, revenait toujours à l'image de Pekoua. Chaque matin, Imlac recevait l'ordre de renouveler ses recherches. Chaque soir, on lui demandait ce qu'il avait appris. Hors d'état de répondre à la princesse comme elle l'eût désiré, il devenait de jour en jour moins à son aise en sa présence. Elle s'aperçut qu'il l'évitait et réclama son assiduité. « Vous ne devez pas, dit-elle, prendre mon impatience pour du mécontentement, ni croire que j'accuse votre zèle parce que je murmure de votre peu de succès. Je ne m'étonne pas de votre absence, parce que je sais que les infortunés n'ont pas le don de plaire et que chacun fuit naturellement le contact du malheur. La plainte fatigue les oreilles, dans le bonheur comme dans l'adversité. Qui voudrait pour des peines étrangères couvrir de nuages les courts instants de sérénité qu'on a dans la vie? Qui voudrait ajouter aux maux dont on souffre le poids du malheur d'autrui? Le temps n'est pas éloigné où les soupirs de Nekaya ne fatigueront plus personne. Cette poursuite de bonheur que j'avais commencée est finie pour moi. Je suis résolu d'abandonner le monde et ses décevantes promesses. Je m'enfermerai dans une solitude pour y rasseoir mes pensées et m'occuper d'innocents travaux jusqu'au moment où mon âme, épurée de tout désir terrestre, entrera dans cet état vers lequel nous marchons tous et qui me rendra, j'espère, encore à l'amitié de Pekoua. Craignez, dit Imlac, de vous imposer les chaînes d'une résolution irrévocable et d'ajouter au fardeau de la vie ce surcroît de mots volontaires. La solitude vous sera pesante, ou même tout à fait insupportable, quand vous aurez oublié la perte de votre ami. Parce qu'une jouissance nous échappe, faut-il rejeter toutes les autres ? Depuis que Pekoua m'a été ravi, dit la princesse, je ne rejette ni ne goûte aucun plaisir. Quand on a perdu l'objet de son affection ou de sa confiance, l'avenir est comme fermé. La base du bonheur échappe. On peut dire que le monde n'offre de jouissance que dans l'union de la richesse, du savoir et de la vertu. La richesse n'est rien quand on ne peut la répandre. La science n'est rien quand on ne peut la communiquer. Ces biens n'existent que dans la faculté de les partager avec d'autres. Et à qui voulez-vous maintenant que je me plaise à les départir ? La vertu porte avec elle la seule satisfaction dont on puisse jouir sans la transmettre, et on peut la pratiquer dans la solitude. La solitude est-elle favorable à l'exercice et au progrès de la vertu ? C'est, dit Imlac, ce que je n'examine pas en ce moment. Rappelez-vous les aveux du pieux ermite. Vous voudrez revoir le monde quand l'image de votre ami se sera effacée de votre pensée. Ce moment n'arrivera jamais, dit Nekaya, car plus je resterai dans le monde pour y être témoin des vices et de la folie humaine, plus je sentirai vivement la perte que j'ai faite dans la généreuse franchise, le modeste empressement et la discrétion fidèle de ma chère Pekoua. Un cœur accablé d'un malheur imprévu, dit Imlac, se trouve dans cet état où l'imagination se représente les habitants du monde sortant des mains du Créateur lorsque la première nuit vint les envelopper de ses voiles. Sans doute ils crurent que le jour ne reviendrait jamais. Ainsi, lorsque le chagrin appesantit sur nous ces sombres nuages, on ne voit rien au-delà. On ne conçoit pas qu'il puisse jamais se dissiper. Cependant, un nouveau jour remplaça la première nuit. De même, après la tristesse, une aurore de sérénité ne tarde jamais à paraître. Les affligés qui se refusent à toute consolation font ce qu'auraient fait les premiers hommes si, dans leur sauvage ignorance, ils se fussent arrachés les yeux parce qu'il faisait nuit. Nos esprits ainsi que nos corps sont dans un flux continuel. Chaque instant leur fait perdre et gagner quelque chose. Perdre beaucoup à la fois est un mal pour le corps comme pour l'esprit. Mais tant que le principe vital n'est point altéré, la nature a bientôt réparé le dommage. La distance produit sur l'esprit le même effet que sur l'œil. À mesure qu'on voyage sur le fleuve de la vie, on voit diminuer les objets dont on s'éloigne et grandir ceux dont on s'approche. Ne songez pas à rendre l'existence stationnaire. Elle devient trouble comme l'eau, faute de mouvement. Livrez-vous de nouveau au courant du monde. Le souvenir de Pekua s'évanouira par degrés. Vous rencontrerez une autre favorite ou vous apprendrez à vous distraire par le commerce de la société. N'allez pas au moins, dit le prince, vous livrez au désespoir avant d'avoir épuisé toutes les ressources. Les recherches continuent avec plus d'activité que jamais. J'y ferai mettre plus de zèle encore. Mais promettez-moi d'attendre une année avant de prendre une détermination irrévocable. Nekaya trouva cette demande raisonnable et fit à son frère la promesse dont Imlac lui avait suggéré l'idée. Ce n'est pas qu'Imlac eut grand espoir de retrouver Pekua, mais il supposait qu'au bout d'une année, il n'y aurait plus à craindre que la princesse allât s'enfermer dans un cloître.